clair et net. Lors de l'accouchement, on assiste de plus en plus à des ruptures d'anévrisme, c'est-à-dire dû au tabac. Lors de cette épreuve qui est l'accouchement, qui est une épreuve physique qui demande beaucoup de ressources, beaucoup de force, d'énergie, là, la femme qui consomme du tabac est fortement handicapée par rapport à cette épreuve. Donc on assiste plus souvent, très, très fréquemment, à des ruptures d'anévrisme en ce moment. Autre info qui est aussi intéressante, c'est aussi les cigarettes light. Un autre effet pervers de notre industrie, qui était déjà programmé par l'industrie, les cigarettes light a été programmé par rapport à la hausse des cancers, par rapport aussi au signal d'alarme des ministères de la Santé. Voilà, il y a trop de cancers. Le risque, c'était quoi? D'augmenter les cigarettes, ce qui ne plaisait pas à toute l'industrie Marlboro, Philip Morris et tout. Donc, je vous résume un petit peu l'histoire. Voilà, les industries ont dit au ministre, ne vous inquiétez pas, ne touchez pas au prix des cigarettes. Nous, on a une solution. On a des cigarettes light, allégées. C'est vrai que le réflexe, quand on est fumeur, on va se dire, bon, on va prendre des light. Hein, light, on se dit léger, moins nocif. Mais le souci, que dans les light, c'est vrai qu'ils ont enlevé la dose de nicotine, mais ce qu'ils ont aussi procédé comme changement, c'est le changement du filtre. Donc le filtre aussi est plus allégé. Mais le souci, en quelques mots, quand on inhale une cigarette, bon, je ne fais pas de pub, hein, une Marlboro rouge et une Marlboro, c'est marron, non, les light? Marron. Hein. En quelques mots, la light, elle est plus nocive, parce que le filtre n'a pas justement son objectif premier de filtrer au maximum toute la nicotine. Malgré une dose inférieure dans les light, finalement, on augmente plus le taux de nicotine lorsqu'on inhale une light. C'est vrai que c'est un peu contradictoire. Des fois, je dis à mes patients de vaut mieux fumer des non-light. Parce que bon, c'est vrai qu'ils ont modifié les filtres. Et pire encore, c'est vrai qu'ils ont enlevé la nicotine, ils ont remplacé par d'autres produits. Et c'est l'interaction de d'autres produits qui vont faire paraître dans une étude bientôt d'autres effets sur la santé, notamment des troubles au niveau sexuel. Ce sont une étude sur les cigarettes espagnoles, je crois, hein, qui sont très beau marché et très commercial. C'est-à-dire, je crois qu'il n'y a pas 20 dedans, il y a 30 cigarettes dans le paquet, donc très beau marché. Donc finalement, on augmente notre risque de dépendance parce qu'on inhale plus de nicotine, mais on inhale aussi plus de produits qui sont dangereux pour la santé. Et c'est l'interaction de tous ces produits qui amèneront bientôt cette étude qui est en cours. Donc voilà, ça c'est une info, je pense, importante sur cette distinction des cigarettes légères et cigarettes normales. Donc au niveau de la prise en charge, moi ce que je veux vous présenter un petit peu, c'est vrai que je suis à La Réunion depuis 2 ans. Je connais quelques structures, enfin je vais vous présenter quelques structures que je connais. C'est vrai qu'il y a le CHD, le centre au service d'addictologie, hein, qui existe. Il y a aussi pas mal d'associations que vous pouvez contacter. Hein. Il y a aussi les CCAA, les centres de cure d'addictologie ambulatoire. Je mettrai à disposition quelques listes, quelques adresses, hein, de tous ces différents centres. J'en ai pas amené suffisamment, hein, donc je laisserai peut-être je verrai en fin de séance avec vos différents responsables, et si vous avez besoin plus d'informations, il n'y a pas de souci. La prise en charge aussi, bon, l'arrêt du tabac aussi, elle peut être aussi dangereuse, hein, c'est pour ça qu'il faut faire appel bien souvent à un professionnel de santé. Elle peut aussi amener des troubles alimentaires, hein, parce que c'est vrai que le tabac modifie nos papilles gustatives, tout simplement. C'est vrai que quand on arrête le tabac, bien souvent le risque, c'est des pulsions vers certains aliments sucrés, et les conséquences à long terme, c'est augmentation du poids ou les risques de diabète chez les personnes plus âgées. C'est vrai qu'il existe aussi différents traitements. On entend aussi le Champix, les patchs qui sont très à la mode. Je voulais quand même apporter une certaine vigilance aux patchs. C'est vrai que ce sont une des méthodes pour arrêter. Il existe plusieurs méthodes pour arrêter. Ce qui me gêne, moi, au niveau des patchs, c'est que c'est en accès libre au niveau des pharmacies. Beaucoup de gens me disent, voilà, bon, les patchs, finalement, ça fait vomir, ça fait... c'est vrai qu'il y a des effets secondaires, comme un médicament. Mais je préfère que vous soyez toujours conseillé, soit par votre médecin traitant, évalué et suivi par un vrai professionnel de santé. Parce que beaucoup de personnes, du coup, de cet accès libre, veulent arrêter et du coup, n'y arrivent pas, justement, parce qu'ils ne sont pas assez guidés. Donc, c'est vrai qu'au niveau des patchs, on me dit aussi que c'est coûteux. Je l'entends bien. Je sais que cette année encore que le Conseil Général a renouvelé cette opération de patch gratuit qui est délivrée au niveau des CCAA, des centres de cure d'addictologie ambulatoire, donc qui se trouvent dans plusieurs grandes villes, donc où vous serez évalué par un médecin et suivi par un infirmier dans cette prise en charge avec les patchs. Donc, pour terminer avec le tabac, c'est vrai qu'il faut une intention de changer. Je pense qu'il faut s'armer surtout d'informations pour prendre cette décision. Beaucoup de patients m'ont dit, voilà, j'ai essayé 5, 6 fois, 7 fois. Et c'est vrai que leur morale, ça influe vraiment négativement sur leur morale. Mais je leur dis toujours que c'est un patient qui m'a dit ça, que les rechutes, ça fait partie des étapes. Parce que la finalité, c'est vrai que c'est l'abstinence. Mais c'est une finalité qui est très dure d'y arriver. Et les rechutes peuvent faire partir des étapes pour arriver à cette abstinence. Une rechute n'est pas forcément négative. Ça fait partie vraiment, ça peut faire partie pour certains des étapes pour arriver à cette finalité qu'on se fixe. Voilà un petit peu sur le tabac. Quelques informations, je pense, qui peuvent être pratiques. Comme je vous dis, je pense que vous avez des ressources, des capacités à certains à traiter ces informations et aussi à les communiquer. C'est vrai qu'ici, on est un public masculin, mais aussi à faire circuler autour de vous.
Alors, en ce qui concerne le tabac à cigarette sur le plan de vue de l'islam, je vais vous donner un exemple pour l'illustrer. Très simple. Avant-hier, j'ai rencontré quelqu'un que j'avais eu l'occasion de voir à différentes reprises en prison. Ce monsieur-là, lorsque je l'ai vu, en dehors de la prison, il était bien, dans la voiture avec son épouse. Et il a dit à sa femme, Molissa, il venait me rendre visite en prison. Alors je lui dis, oui, Juliette de Dieu, c'est difficile quand même. Je lui dis, demain jour, ça doit être plus simple. Je lui dis, maintenant, demain jour, c'est 5 étoiles. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, Molissa, c'est pas la nourriture qui est difficile en prison. C'est pas être dans des petites chambres qui est difficile. Quand j'étais en prison, je mangeais un fruit par jour. J'ai perdu 17 kilos en un mois. Combien de kilos? 17 kilos en un mois. Je mangeais des oranges, c'est tout. Et son épouse, qui m'a dit, le premier mois où mon mari était en prison, j'ai perdu 14 kilos et demi. Qu'est-ce qui était difficile pour moi? Moi, je n'étais pas en prison. Mais la terre était devenue soudainement très exiguë pour moi. Pourquoi? Parce que le regard des autres était très difficile. M'a dit, ce qui est difficile, c'est d'être enfermé. On n'a plus de liberté. Que l'on soit à deux dieux ou que l'on soit à Domingo, la différence, ce n'est pas le site, ce n'est pas d'avoir une chambre pour trois, d'avoir un terrain de football synthétique, d'avoir canal satellite, c'est pas ça. On m'a dit, c'est d'être enfermé. Quand on est privé de liberté, c'est ça qui est difficile. Et tout à l'heure, là, on va parler de la drogue, on va parler de l'alcool. Mais vous savez, avant même de vous dire, voilà, certains mouftis disent comme ça, qu'est-ce que le Coran nous dit? Ce que je veux, moi, vous dire, c'est quoi? Que celui qui a pris du zamal un jour, que celui qui a pris un cachet un jour, avant de le prendre là, il a commencé à fumer une taf. Il a dit, essaye un coup, on va voir comment il est. Mais si c'est ça, essayer là, c'est ça, il ne faut pas essayer. Hier, j'ai demandé, je parlais avec un jeune, qui là, parmi vous, qui est de l'Assemblée. Il m'a dit, Moïssa m'a raconté comment il est arrivé dans le Zamal. Alors je lui ai dit, mais la première fois que tu as fumé, c'était quand? Il m'a dit, j'avais 13 ans. La première fois que j'ai fumé, quoi? Le Zamal. Et je dis, la cigarette? Il dit, j'avais 12 ans. Et comment t'as commencé? Vous savez ce qu'il m'a dit? C'est pas le copain qui l'a donné. C'est pas la tantine qui lui a donné. Il m'a dit, c'est mon tonton. Il m'a dit, essaye un coup. Qu'est-ce qu'il m'a dit? C'est tonton qui m'a dit, essaye un coup, on va voir comment il est. Mais c'est quand c'est tonton qui me dit d'essayer, ou si c'est papa qui me dit d'essayer, ou si c'est X, ou si c'est Y, il faut avoir le courage de dire non. Et pourquoi il ne faut pas aller vers la cigarette? Parce que le docteur vous a dit tout à l'heure que 40% des cancers sont provoqués par ça. Et le corps que nous avons là, ça c'est un manat qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. Ce corps-là, Allah tabarak wa ta'ala nous l'a donné, il faut prendre considération de ce corps. Et dans le Coran, Allah tabarak wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit? Vous n'avez pas le droit de réduire à néant, d'amener à la destruction votre corps. Et tout ce qui est nuisible pour mon corps, je ne dois pas le prendre. D'une part. Deuxièmement, on vous a donné l'exemple tout à l'heure de la cigarette espagnole. Parce qu'il y a une hausse des prix. Il y a des gens qui avaient l'habitude de manger de la viande qui maintenant mangent des conserves, mangent des légumes, parce que les gens n'ont plus d'argent. Et dans le Coran, Allah tabarak wa ta'ala, il dit, il n'aime pas ceux qui font des dépenses inutiles. Tout ce qui dépense inutile, Allah tabarak wa ta'ala, il n'aime pas. J'ai lu dans un magazine qu'en Jordanie, 2 jours dans la semaine, il y a de l'eau potable pour boire. Hier soir, quand on passait devant les chambres, que je disais à certains, ben, c'est l'heure de dormir, faut dormir. Mais ça, il fait chaud, mais ça, il fait chaud. Pas un peu de l'eau pour boire là, mais ça, comment il fait là? Et celui qui avait envie de boire de l'eau, qu'est-ce qu'il avait à faire? Il descendait l'escalier, en bas il y avait des robinets, il ouvrait le robinet, il y avait de l'eau potable, il pouvait boire. Mais vous ne devrez jamais oublier, jamais, qu'en Jordanie, quand vous vous appelez Yahya, bien il y a des enfants musulmans aussi qui s'appellent Yahya là-bas. Quand moi je m'appelle Mohammed, il y a Mohammed en Jordanie, il y a Mohammed en Palestine. Il y a un Mohammed en Ouzbékistan et partout ailleurs dans le monde. Et que 2/3 de la planète aujourd'hui n'a pas accès à l'eau potable tous les jours. 2/3. Et que le seul tiers qui a accès à cette eau potable de manière quotidienne, alhamdoulilah, à La Réunion, on a tout. Est-ce que nous, on a le droit ensuite de dépenser notre argent pour acheter des paquets de cigarettes? En sachant que lorsque je vais commencer par la cigarette, où est-ce que ça va m'amener? Inna Allah la yuhibbul musrifin. En troisième lieu, moi j'ai des hafez avec moi dans ma madrasa. Si moi je fais hafez, j'ai 15 ans, j'ai 16 ans, j'ai 17 ans, Qu'on n'est pas devant Molissab, on est entre Hafez. Et vous savez qu'il y a des Hafez qui ont 8 ans, d'autres qui ont 10 ans, d'autres qui ont 9 ans. Et que moi je fume devant eux. Qu'est-ce qui va se passer? En premier lieu, ils vont dire, ah ben grand il fume. Ah nous aussi nous peut fumer. Nous va essayer, nous va voir comment il est. Et vous savez, tous ceux qui fument, je ne le dis pas une fois encore, on l'a répété au départ, je ne pointe pas le doigt vers vous. Mais l'objectif c'est d'arriver à s'en sortir. Que si le petit, il est rentré dedans, dans cet engrenage, Allah même sait jusqu'à où il peut partir. Et deuxièmement, lorsque je fume, eh bien je suis en train de lui causer du tort. Tout comme la femme qui est enceinte, lorsque elle fume, elle cause du mal au bébé qu'elle porte, aux enfants qui vivent dans sa maison, à son mari. Et la réciproque, eh bien de la même manière, lorsque moi je fume devant quelqu'un, je cause du tort aux autres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il nous a enseigné? De causer du tort à un croyant, de causer du tort à quelqu'un, c'est haram. De causer du tort à quelqu'un, c'est interdit. Le musulman, c'est quelqu'un qui amène le bien sur terre. Le musulman, c'est quelqu'un qui est noble dans son caractère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jamais dans sa vie, il n'a dit une parole obscène. Jamais. Mon professeur, Hazrat Maulana Zulfaqar Sam, damat barakatuhum, à chaque fois, il nous répétait et martelait cela. Il nous disait, tous ceux qui aspirent à servir le dîn d'Allah, à prêcher la religion d'Allah, ne devront jamais oublier que dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a une leçon extraordinaire et un défi à l'ensemble de l'humanité. Que si vous étudiez la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, depuis le jour où il est venu sur terre, pendant les 40 ans où il n'était pas prophète, et pendant les 23 années où il était prophète, personne ne pourra pointer le doigt vers lui en disant qu'à un moment de sa vie, il a eu un comportement qui était malhonnête, un comportement qui était détestable. Personne ne pourra jamais le faire. Et c'est ce qu'une étude américaine a confirmé en le classant numéro 1 parmi les 100 plus grandes personnalités que le monde a connues. Ce qui veut dire que nous, honnêtement, entre nous, il n'y a pas personne d'être là, entre un marmaï, il y a une cigarette dans la main, il y a un point, il y a un chewing-gum. Quel est le plus joli à voir? Honnêtement, allez, sac 10 cigarettes, lève le doigt à quoi? Mais t'as pas ces autres mains? Cigarette plus jolie? Et chewing-gum? Ou bien un chocolat? Dedans, c'est quoi? Il faut que, en premier lieu, nous, on va nous donner les arguments médicaux, on va nous donner tous les arguments. Les fuqaha, les juristes musulmans, ils nous donnent les arguments. Mais en premier lieu, il faut que nous, on soit convaincus que ça, c'est pas bon. La cigarette, c'est pas bon. Il ne faut pas que j'y touche. Si j'y touchais, eh bien, je vais arrêter. Hier après-midi, en sortant de Casabona, et je vais laisser la parole au docteur ensuite. En sortant de Casabona, j'ai parlé avec quelques jeunes dans le bus où j'étais. Ils sont là, ils se reconnaîtront. Il y en a un qui m'a dit, Moïssa, moi, mais t'es prends à mal. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, combien de temps? Il m'a dit, généralement, on prend à mal combien de temps? 2 mois, 3 mois? Non, Moïssa, plus que ça. Combien de temps? Un peu plus qu'un an? Un peu plus qu'un an? Pour essayer? Il m'a dit, bah oui. Il m'a dit, ben, comment on l'a fait pour sortir? Pour activer jogging? Non, Moïssa, comment on l'a fait? On fait namaz, Moïssa. On fait quoi? Namaz. Namaz? Ben oui, Moïssa. Ben parce que quand on fait namaz, après là, nous demandons l'aide avec Allah. Nous avons la volonté et nous cherchons ça avec qui? Avec Allah. Seul Allah peut nous aider. À part Allah, personne ne peut nous aider. Et Allah, il a créé des facteurs. Ce monde-là, Allah Ta'ala, quand quelqu'un a faim, bien sûr, on lève la main, on dit, Allah, ma faim, Allah. Et Allah, il mange une pizza margherita. Hein? Une pizza, ça arrive devant la bouche comme ça, ça. À moins que, mashallah, Mais de la même manière, si je suis dedans, je cherche l'aide auprès d'Allah, et là, on est en train de nous donner des moyens. Parce que je vous observe, ce que Docteur Bilal est en train de vous dire là, ce sont des paroles importantes. Si la dépendance s'est faite maintenant, si maintenant j'ai pris l'habitude de fumer, même quand je serai papa, je vais fumer devant mon enfant. Et ça, c'est grave. Généralement, quand un papa fume devant son fils, cet enfant-là, lui aussi, va fumer. Parce que pour lui, il va dire, papa, t'es fume. Vous devrez être les papas de demain qui ne fumeront pas. Inch'Allah. Inch'Allah, elle est faible, hein? Ah. Oui, mashallah. Donc, en premier lieu, la cigarette, on n'y touche pas. Inch'Allah.
Ben, je voulais terminer. Peut-être ça serait un peu paradoxal, contradictoire. Le but, enfin, pour ma part, c'est pas que vous arrêtez de fumer. Beaucoup de patients me disent oui, je vais arrêter de fumer parce que vous m'avez dit que c'est pas bon. Moi, le but, c'est de vous informer, de vous donner les moyens, de vous donner toutes les informations nécessaires. Parce que tout simplement, cette décision vous appartient. Parce que c'est vrai, que lorsque je vois mes patients, c'est au domicile qu'ils sont en difficulté. C'est dans le contexte environnemental, dans la cité, avec leurs camarades. C'est là qu'ils sont en difficulté. Et moi, je ne suis pas là. Il ne faut pas, surtout, je voudrais mettre l'accent, ne pas confondre les besoins, c'est-à-dire mes besoins, c'est vrai, moi, c'est de vous informer, et vos besoins. La décision, c'est vous qui devez la prendre, tout simplement parce que vous avez les capacités, vous écoutez nos informations, nos échanges. La décision vous appartient. Moi, mon but, voilà, c'est de vous informer. Mais c'est vrai que où ça sera plus efficace, c'est vous qui prenez la décision. Parce que après, c'est vous qui allez personnaliser comment je dois faire, comment, quel réseau d'aide. Pour moi, voilà, je suis plus à l'aise de discuter ça avec un Moïsab. Pour moi, c'est plus facile que je travaille cette question avec mon médecin traitant. Pour moi, c'est plus facile que je vois un ami qui a arrêté la cigarette. Ça, chacun, après, personnalise sa prise en charge. C'est très important de comprendre que cette décision vous appartient. Parce que c'est votre démarche, après, que vous personnalisez. Nous, on est là pour vous conseiller, pour vous guider. On n'est pas là tout le temps derrière vous. Des questions ? Oui.
À gauche.
Bonjour. Monsieur. Et Gérald, généralement, la cigarette, elle commence à quel âge ? À consommer.
C'est vrai que bon, la cigarette, les facteurs qui poussent les gens à fumer, c'est vrai que la cigarette de nos jours, c'est un phénomène de mode. Ça fait partie un petit peu, voilà, du parfait adolescent, comme l'effet casquette, l'effet scooter, l'effet. C'est un effet de mode. Mais le souci, c'est que ce qu'il faut retenir aussi, on est tous inégaux face à la cigarette. Moi, je peux tester, et puis ça ne me plaît pas, j'aime pas le goût, je ne continue pas. Molissa peut tester, ben il aime bien, et finalement, il continue. L'autre va continuer à fumer pour être accepté, se donner l'illusion d'être accepté dans un groupe. Ça aussi, c'est très piège. Parce que la personne, beaucoup de gens, se servent de ce moyen pour être en contact avec un réseau, avec un groupe, de s'affirmer, de se construire. Alors que ça, finalement, se construire, c'est faux. Parce qu'on sait bien que la cigarette détruit. Lorsqu'on arrête la cigarette, on se retrouve des fois très seul. Parce que, bon, on a envie d'arrêter, on perd certains copains. Certains copains, on évite parce qu'ils fument, on ne veut pas retomber. Ça, il faut avoir conscience de tout ça. Hein, c'est vrai que, bon, on est tous inégaux. Hein. La cigarette, chez certains, il y a certains qui aiment, il y a certains qui n'aiment pas. Hein. Comme ceux qui boivent de l'alcool, où c'est pas interdit, il y a certains qui préfèrent certains alcools, certains non. Ça, c'est, après, c'est vraiment par rapport à notre personnalité, par rapport à nos goûts.
Et comment par exemple, mon frère est au collège, par exemple en quatrième. Comment je vais faire pour qu'on puisse dialoguer et que je sache s'il ne prend pas de cigarette et tout, et comment je dois l'aider?
Je pense, bah, c'est une question des. C'est vrai que ça, c'est. Enfin, ce que j'essaie de comprendre, tu m'arrêtes si j'ai mal compris, c'est l'envie qu'il arrête, c'est plus.
Non,
toi.
Mais par exemple, oui. Sur lui-même, je ne sais pas s'il fume, mais je trouve qu'il a un comportement de fumeur. Oui. Comment moi je fais pour savoir?
Mais après, je veux dire, le but, ce n'est pas de savoir s'il fume ou pas, c'est peut-être de l'informer. C'est vrai que, bon, peut-être lui, s'il fume en cachette, c'est pour X raisons. Hein. Des fois, il y a des personnes qui fument par rapport aussi à un mal-être. Hein. On ne fume pas que pour appartenir à un groupe ou pour se donner une image. Il y a des gens qui fument parce qu'ils sont en difficulté, parce qu'ils sont stressés, parce qu'ils sont angoissés. Et pour eux, c'est une béquille qu'ils ont trouvée de fumer. C'est vrai que peut-être, à ton niveau, tu peux juste l'informer. Et vraiment, après, le pousser s'il y a une intention de changer. Mais maintenant, fumer une cigarette, c'est vrai que les raisons sont vraiment différentes et sont multiples, quoi.
Et comment? Et est-ce que ça arrive quand, par exemple, une famille, un membre de votre famille décède, est-ce que ça arrive de consommer des cigarettes?
Il y a des gens, malheureusement, qui commencent la cigarette à 50 ans, 55 ans, qui ont toujours détesté, qui ont eu ont toujours marqué leur indifférence au tabac. Maintenant, on est tous fragiles à un moment ou l'autre dans notre vie. Hein. Bien sûr, lors d'un décès, qui est des fois soit souvent brutal, ou un décès d'une personne qu'on estime qui a une importance, on ne peut pas prévoir les conséquences. Maintenant, dire que c'est que, enfin, la cigarette est vraiment la conséquence du décès, c'est pas très prudent.
Et ben, l'État, par exemple, il voit que les amals, c'est pas bon. Ben, pourquoi ils défendent pas aussi la cigarette?
C'est vrai que, bon, moi, c'est vrai que je suis soignant. Il faut savoir que le Zamal a des effets positifs. Hein. Il est utilisé dans des médicaments contre la douleur, par exemple. Maintenant, après, quand ça devient une addiction, c'est quand il y a abus. Hein. Un exemple, si je mets 5 sucres dans mon café tous les jours, le sucre, c'est pas une drogue. Elle n'est pas définie comme une drogue. Mais si j'en abuse, je prends 5 sucres, je prends 5 cafés par jour, je mange que des trucs sucrés la journée, j'aurai un risque, bien sûr. Maintenant, c'est nous qui donnons un sens vraiment à un produit. Dans les centres d'antidouleur, le Zamal est utilisé comme un bon traitement parce qu'il n'a pas d'effet secondaire par rapport à un traitement antidouleur. Maintenant, je veux dire, on ne peut pas tout contrôler. L'État ne peut pas tout contrôler. Il y aura d'autres addictions. L'homme donnera un sens à d'autres addictions. Ça, c'est, je veux dire, ça dépend aussi des cultures. Il y a certaines cultures. Voilà, chez nous, il y a le Zamal, la cigarette. Dans d'autres cultures, c'est d'autres plantes, hein, qui ont des effets hallucinogènes. Maintenant, les facteurs sont multiples. Maintenant, de dire, voilà, on va interdire ça, on va interdire ça, je pense pas que ça sera la solution. C'est plus, voilà les risques, attention à la notion d'abus, les vraies informations et comment utiliser.
Et en islam, la cigarette, c'est pas haram, mais est-ce qu'on a le droit, c'est pas bien de fumer? Si on fume, c'est pas péché.
Attends.
Alors, de quelle ville tu es, toi? Du port. Bah, tu demandes à Moufti Shakir, tu as Moulay Abbas. L'objectif de cette sortie, justement, était que le soir, au travers de différents madrisses, on ait plus d'affinité aussi avec nos moulissables. Des questions comme ça, ben, ce serait très intéressant d'en discuter avec eux pour bien comprendre. Il y a mon anem d'Adullah qui est juste à côté de toi, du quai du port. Ah, tu peux lui demander, il n'y a pas de souci à ce niveau. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les livres, où il y a des écrits plus anciens, pendant longtemps, on a parlé de karahat, que c'est déconseillé. Cependant, il y a des auteurs comme Maulana Abdul Hafiz Makki, ou comme Mufti Ashiq Ilahi, qui sont de très grands ulama, qui ont écrit des livres entiers consacrés justement à cela et qui ont été formels dans leurs écrits. Pour eux, ils ont dit que c'est haram, que c'est interdit. D'accord ? Maintenant, de toi à moi, quand tu vois une boîte de cigarettes et que c'est écrit fumer tue, et que l'islam est une religion qui prévient, qui te dit ben, ce qui n'est pas bon pour l'homme, il faut s'abstenir, tu penses que il est judicieux de fumer ou pas? Khalas, suis ce que ton cœur te dit. Et tu as aussi les écrits de Mufti Ashiq Ilahi, Mawlana Abdul Hafiz Makki, etc., qui eux vont dans ce sens et qui te disent que c'est formellement interdit. Vous avez d'autres questions?
Moussa, c'était oui. Pour poser une question, c'est par rapport aux gens qui disent qui fument des cigarettes, par rapport qu'ils ont des soucis, tracas, et que la cigarette pourront les aider à, comment dire ça, distraire, oublier. Est-ce que c'est vrai que, voilà, ben, est-ce que la cigarette peut vraiment aider?
Alors, tu vois, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub ». Sache que la tranquillité des cœurs se trouve dans la pensée d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Oh. Je vais te raconter une histoire pour que tu comprennes bien. Tu as un papa? Il est encore vivant? Allah lui donne longue vie. Une maman? Elle est encore vivante?
Oui.
Allah ta'ala leur donne longue vie. Tu sais pourquoi? Parce que les parents sont des gens quand même essentiels dans notre vie. Pour la stabilité d'un homme, la présence de parents, c'est important. J'ai un ami qui m'est très cher, qui était très attaché à sa maman. Mais vraiment très attaché à sa maman. Et puis, sa maman a voyagé, elle est morte de manière soudaine. Elle est morte au Malawi là-bas. Comme ça, d'un seul coup. Et lui, il ne s'attendait pas à ça, ça lui est tombé dessus. Maintenant, quand je suis allé le voir, dès que j'ai su que sa maman est décédée, c'est de gros soucis ça. J'ai vu qu'il était quand même serein. J'ai laissé passer quelques jours et puis je lui ai dit, ta réaction, je m'attendais à ce que tu sois plus touché. Il t'est touché, jusqu'à maintenant il pense à sa mère. Mais il s'est montré fort dans cette épreuve. Je lui ai dit, mais comment t'as fait? Il n'est pas un moulissable, lui, hein? C'est un commerçant. Tu sais ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit, mais moulissable, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Ya ayyuhalladhina amanu sta'inu bis-sabri was-salah. Que lorsque, pour trouver l'aide d'Allah, eh bien, il y a au travers de deux choses, la prière et la patience. Il m'a dit, dès que j'ai su que ma maman était décédée, j'ai fait deux raka'at de salat. Et c'est dedans qu'Allah tabarak wa ta'ala m'a donné une force extraordinaire pour tenir. Donc, quand j'ai des soucis, quand j'ai des épreuves, parce que les épreuves de la vie, là, tout le monde est touché par ça. Il ne faut pas penser, nous on a toujours, l'homme, je ne suis pas psychologue, hein, l'homme il a toujours l'impression que c'est lui seulement qui est éprouvé. Lorsqu'il a un problème, par exemple, au CPE, on m'a convoqué a dit comme ça, monsieur un tel, fait telle chose. Mais comme il mange, mais ça va vers le CPE, là, j'ai l'impression que la personne sur Terre a le plus gros problème, là, c'est moi. Ça, c'est mon impression. Alors qu'à côté, il y a des enfants, leurs parents viennent de divorcer. Papa est séparé avec maman, c'est pas facile à vivre. Il y en a qui a perdu sa mère. Il y en a, ils n'ont pas à manger. Chaque personne a des épreuves. Ça n'existe pas, ça, un être humain qui n'est pas éprouvé. Mais certains sont forts, certains sourient, certains cèdent à la dépression, certains chacun réagit de manière différente. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a montré comment réagir. Lorsqu'on est éprouvé, on fait la salat, on demande l'aide avec Allah tabaraka wa ta'ala. Et puis pour chaque épreuve dans laquelle on est, Allah subhanahu wa ta'ala, au travers de l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous a montré comment réagir. Et si fumer aurait été un moyen d'évacuer les soucis, eh bien au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam là, il y aurait eu la cigarette, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait fumé. Parce que Allah tabaraka wa ta'ala a fait de lui le modèle pour l'ensemble de l'humanité jusqu'au qiyamah. Donc dans l'organisation qu'Allah tabaraka wa ta'ala il a fait des choses bonnes et mauvaises pour l'homme, il n'y a que l'homme peut trouver la sérénité, la quiétude, la tranquillité et surmonter toutes ses épreuves sans la cigarette. D'autres questions? Toujours du même côté les questions, mashallah.
Alors, ça n'est quoi?
Oui.
Salam alaikum.
Salam.
Pourquoi l'État il connaît que maintenant il y a beaucoup de gens qui meurent à cause de la drogue, tout ça. Pourquoi ils n'arrêtent pas de fabriquer les drogues, tout ça?
Après, il faut savoir que la cigarette, c'est un produit qui rapporte aussi à l'État. Après, c'est pour ça que je dis que des fois, c'est un effet pervers. Nous, soignants, ça nous crée aussi un déficit au niveau de la sécurité sociale, l'augmentation des cancers, l'augmentation de ces prises en charge. Mais je pense que c'est à nous, consommateurs ou futurs non-consommateurs, de réfléchir. Hein. Tu as l'habitude, par exemple, de consommer un biscuit d'une telle marque. Ok ? C'est un produit qui est bon, que tu as l'habitude de consommer. Un jour, tu apprends finalement la vraie liste des ingrédients de ce produit. Je pense que le lendemain, tu n'auras pas le même réflexe d'acheter ce produit. Parce qu'on te donnera des vraies informations qui te permettront de dire, finalement, c'est un produit dangereux. Je pense que c'est pour ça que c'est très important d'avoir les informations. C'est pour ça que je dis que c'est à vous de prendre cette décision, à vous de faire attention, à vous de d'être vigilant à tous les pièges. Ce sont des pièges de notre société. Hein. La cigarette, c'est un des pièges, hein, comme d'autres choses. Mais voilà, nous consommateurs, on fait attention quand on achète quelque chose, on le lit. Maintenant, je pense que la cigarette aussi, ça rapporte à l'État, ça rapporte aussi à... ça crée aussi des professions. Il y a aussi des bénéfices de la cigarette, mais aux consommateurs de bien réfléchir. C'est pour ça qu'on n'accentue pas davantage les informations. Hein. On accentue quand il est malheureusement un peu tard, lorsque la personne malheureusement va commencer à réfléchir quand on lui apprend qu'elle a un cancer ou que son enfant a une anomalie. Ou quand il a un trouble de la sexualité. Et là, c'est là qu'il commence à prendre conscience. C'est pour ça que c'est important de traiter toutes les informations avant que le risque augmente.
Alors, moi je veux dire par rapport à ce que je connais bien mes amis et tout. Pas finir ?
Non.
C'est pas vraiment une question. Mais j'ai eu l'occasion de discuter avec beaucoup d'amis qui fument. Je leur demande comment ils ont commencé. C'est comme vous avez dit, juste par rapport à ce qu'ils ont vu leur ami ou autre fumer, ils voulaient essayer. Et souvent, je lui dis, attention, tu vas commencer, c'est très dur d'arrêter. Il dit, non, moi je sais me contrôler. Il faut revoir quelques mois après, ils sont encore dedans, ils sont à fond. Et là, quand je lui demande, arrête, tu ne pourras pas arrêter plus tard, il dit, non, c'est déjà trop tard maintenant. C'est pour ça que tous les jeunes ici qui sont là, qui n'ont pas encore commencé, eh bien, n'essayez pas. Même si on vous incite, comme tout à l'heure on a donné le tonton ou le père, n'importe qui, ne jamais essayer. Une taf pour commencer amène aux amals, comme on a entendu. Autre chose, il est dit un proverbe, pas en français, une autre langue, que la personne qui a perdu le chemin le matin et qui le soir retourne chez lui, on ne dit pas que c'est un perdu.